Si je devais vous donner des conseils au sujet des pratiques optimales en termes d'aménagement pour les cas d'invalidité épisodique en milieu de travail, je commencerais probablement par celui-ci. Obtenir une vue d'ensemble de l'employé. L'employé a une vie professionnelle, mais aussi une vie familiale et sociale en plus de son travail. Et même si nous le réalisons tous, il faut admettre que c'est encore plus crucial pour quelqu'un qui souffre d'une invalidité épisodique. Cette personne, comme tout le monde, est sujette à des troubles du sommeil. Elle réagit aux changements dans ses habitudes alimentaires, aux stresseurs de sa vie professionnelle ou personnelle. Mais tous ces éléments l'affecteront réellement plus dramatiquement vu qu'elle vit une invalidité épisodique. Par exemple, chez une personne atteinte d'un problème de santé mentale, le manque de sommeil peut souvent déclencher des incidents. Il en va de même chez les gens qui ne font pas assez d'exercice. Cela peut déclencher un incident. Ou si quelqu'un sort le soir et commet des excès, cela aura des répercussions le lendemain matin. Donc, il faut se rappeler d'avoir une vue d'ensemble de la personne et de l'importance des différentes facettes de sa vie. La deuxième chose que je trouve réellement importante est la flexibilité. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. La flexibilité consiste à accepter d'essayer différentes solutions. Il ne faut pas baisser les bras après un échec ou des résultats insatisfaisants au début. Il faut essayer différentes choses et envisager sereinement la possibilité d'un échec. Cela ne signifie pas que rien ne fonctionnera. Cela fait partie du processus d'essai et d'erreur et du processus d'apprentissage. La troisième chose consiste ensuite à accepter qu'il s'agit d'une démarche à long terme. En étant flexible, on accepte qu'une solution qui agit dans l'immédiat ne fonctionnera pas nécessairement toutes les fois. Une personne peut apprendre à mieux gérer son handicap et les aménagements instaurés peuvent être modifiés en cours de route. La situation peut aussi se détériorer pendant une période plus ou moins longue et il faut alors ajuster les aménagements. Ce ne sont pas des mesures qui sont coulées dans le béton. La flexibilité est donc un concept clé qui fait partie, comme je le disais, de nos trois éléments clés. Il me semble qu'on accorde trop peu d'attention à cet élément, car il consiste vraiment à tenir compte des autres parties intéressées. Voici quelques exemples qui illustrent, entre autres, l'importance des collègues de travail. Si vous les avez écoutés, vous savez que les collègues de travail sont votre meilleure ressource. Il y a toujours un équilibre, bien sûr, entre l'information que la personne vivant avec un handicap est prête à divulguer et ce que savent ses compagnons de travail. Ces derniers seront au courant de quelque chose. Ils doivent prendre pour acquis que la personne ne court aucun danger, qu'elle est la bienvenue et qu'elle fait le maximum pour gérer son handicap. Elle ne souhaite pas intentionnellement leur nuire. Il faut se méfier des suppositions souvent malveillantes des gens. Quand une personne doit s'absenter, peu importe la raison, et surtout dans les cas d'invalidité épisodique, ceux qui restent ont tendance à la blâmer pour le surcroît de travail qui leur incombe. Voilà pourquoi il est important de divulguer juste assez de renseignements aux collègues, et cette information peut provenir de différentes sources. Celles que nous n'utilisons pas assez, à mon avis, ce sont les ressources communautaires. Plusieurs associations se consacrent aux invalidités épisodiques, par exemple l'épilepsie, le diabète, la santé mentale, le VIH. Elles acceptent toutes volontiers de se rendre dans les milieux de travail pour enseigner les employés sur ce qu'est telle ou telle invalidité épisodique, ce à quoi on peut s'attendre et ce qu'on peut faire pour aider. Je crois que si nous faisons un peu plus appel aux collègues et aux organismes communautaires pour gérer les invalidités épisodiques en milieu de travail, nous obtiendrons plus de collaboration. Ce qu'il y a de bien, c'est que cela ne coûte pas très cher. En général, les organismes communautaires sont très heureux d'avoir ainsi la possibilité de se faire connaître et ils offrent ces services gratuitement.